This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا راديو جلوبال.
From CNN Radio 7.
راديو داتشا.
O Brasil quer seguir o
mundo. Turkey fotora.
Slava Russia.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui à Oslo. On y retrouvera tout à l'heure en direct Dominique André. En Norvège avec Eric Valmire. Portrait d'un prisonnier britannique à Guantanamo. Ce sera avec Frédéric Carbone. À 18h55, l'édito d'Alain Frachon, précisément sur les méthodes de l'antiterrorisme américain après les attentats du 11 septembre. 6000 pages de documents sont rendues publiques aujourd'hui aux États-Unis et c'est ravageur. Mais tout de suite, la libération de Serge Lazarevitch.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Il était le dernier otage français encore détenu dans le monde. Il avait été enlevé il y a 3 ans et la libération de Serge Lazarevitch, annoncée aujourd'hui par François Hollande, serait le fruit d'une action conjointe des présidents du Niger et du Mali. On est là au cœur d'une région où la France est engagée militairement dans l'opération baptisée Barkhane. Alors réflexion et débat ce soir à la fois sur cette libération dont on peut évidemment se réjouir, mais aussi sur les enjeux politiques, géopolitiques et militaires de la région. Bonsoir Renaud Girard.
Bonsoir.
Grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Nous sommes également par téléphone en ligne avec Alain Rodier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien membre des services secrets français, membre aujourd'hui du Centre français sur le renseignement. Et nous sommes avec le correspondant de RFI au Mali, David Bachet. Bonsoir David.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Première question pour vous. Il semblait depuis quelques jours, David, quelques semaines, que des choses étaient en train de se passer, que des négociations étaient en cours. Bref, qu'après 3 ans de captivité, le dénouement se profilait, qu'il y avait de l'optimisme. Vous le sentiez sur place ?
Oui, c'est vrai qu'on le sentait. On sentait que les choses bougeaient et plusieurs signes l'avaient laissé comprendre. Le premier, c'est la diffusion il y a un mois d'une vidéo de Serge Lazarevitch, une preuve de vie mise en ligne par Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans laquelle l'otage français apparaissait certes amaigri, mais vivant. « Notre pays se montrera toujours disponible », avait alors commenté le ministre malien de la communication, Mahamadou Camara, pour que cet otage soit libéré dans les meilleures conditions. Un émissaire nigérien circulait entre Niamey et Bamako pour négocier les termes d'une libération de Serge Lazarevitch, tout cela dans le plus grand secret. Et dans la foulée, c'est le président du Niger, Mahamadou Issoufou lui-même, qui avait fait part de son optimisme quant à la libération de l'otage français, un terme rarement employé à la légère dans ce genre de circonstances et qui avait été prononcé devant Manuel Valls, le premier ministre français, alors en visite dans le pays. « Je forme l'espoir », avait même déclaré le président du Niger, que l'on arrivera à créer les conditions très prochainement de sa libération. Eh bien, 2 semaines plus tard, c'est chose faite.
Et alors, qu'est-ce qu'on sait, que sait-on du scénario de cette libération même, de ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier ?
Alors, pour le moment, il faut encore rester très prudent. Les informations sur les conditions de cette libération commencent à circuler, souvent de façon contradictoire. Ce que l'on sait, c'est que Serge Lazarevitch a été libéré dans le nord du pays, près de Kidal. Et selon plusieurs sources concordantes, l'ex-otage français aurait été échangé contre des prisonniers maliens liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les sources divergent sur le nombre exact des prisonniers libérés, mais il y aurait parmi eux au moins 2 hommes soupçonnés d'être des sous-traitants d'ACMI pour la traite des otages. Ils avaient été arrêtés en décembre 2011, ils étaient depuis détenus dans la capitale malienne, Bamako, et ils attendaient d'être jugés pour leur implication dans l'enlèvement, justement, de Serge Lazarevitch et de Philippe Verdon. D'autres prisonniers pourraient avoir été libérés dans le même temps. Une information à mettre cette fois au conditionnel. Pour le moment, ni les autorités maliennes, ni les autorités nigériennes, ni les autorités françaises n'ont apporté de précision officielle à ce sujet.
Et donc on aurait troqué l'otage contre les preneurs d'otages. C'est bien ce que vous dites, David.
En quelque sorte, ça revient à ça, à moins que d'autres personnes aient été libérées dans le même temps, qui ne soient pas directement impliquées dans l'enlèvement de Serge Lazarevitch et de Philippe Verdon. Et ça, c'est ce qu'il est encore un petit peu difficile de dire pour le moment.
Merci David. Renaud Girard, une réaction à la fois à la libération de Serge Lazarevitch et à ce qu'on apprend au fil de la journée sur les conditions même du troc, si j'ose dire, ayant conduit à cette libération.
Bon, on est évidemment tous heureux que Serge Lazarevitch ait été libéré. On espère qu'aucune rançon n'a été payée par le gouvernement français pour cette libération, parce qu'évidemment, cette rançon provoquerait immédiatement l'achat d'armes par les djihadistes, par les islamistes. Et d'ailleurs, tout ce mouvement d'ACMI a eu une véritable existence dans le Sahel, après que des touristes allemands et italiens eurent été faits prisonniers par des types en carabine, mais à qui on a versé des rançons de dizaines de millions d'euros, qui a permis à ACMI d'acheter du matériel lourd et de devenir une véritable armée qui a ensuite déstabilisé toute une région. On espère que s'il y a eu libération de prisonniers islamistes, que ces prisonniers ne vont pas prendre en otage toute une ville, comme ils ont soumis à la terreur toute la ville de Tombouctou. Il va d'ailleurs avoir un film qui va sortir, je crois, demain là-dessus.
Abderrahmane Sissako.
Voilà, pour simplement
pour
libérer un Français, on prendrait le risque de libérer des tueurs, des djihadistes qui ensuite recommenceront d'abord contre des Français, mais surtout prendront en otage toute une région, une ville entière. Et s'intéressent-on à ces Maliens de Tombouctou ont-ils aussi le droit de vivre en liberté? Non, je crois qu'il ne faut jamais commencer à céder au chantage. Il ne faut pas leur
Je vous sens en colère, Renaud Girard, alors que c'est plutôt un moment de communion et de joie pour l'otage libéré. Je sens de la colère dans votre voix.
Je suis effectivement en colère parce que le gouvernement français, ça a commencé avec Hissène Habré. Giscard d'Estaing a payé plus d'une dizaine de millions de francs pour libérer Françoise Claus, qui était une ethnologue qui travaillait. Et donc, on a aidé cet Hissène Habré. Qu'est-ce qu'il est devenu, cet Hissène Habré ? Il est devenu un des plus sanglants dictateurs, grâce à notre argent, l'argent des rançons, un des plus grands sanglants dictateurs d'Afrique noire. Il est d'ailleurs aujourd'hui jugé en Afrique pour crimes de guerre. Nous ne pouvons pas rétribuer par de l'argent des combattants qui nous font offense. On ne peut pas rétribuer par de l'argent des gens qui font offense aux Français. Il faut les combattre, il faut aller les tuer. Et il faut qu'ils sachent surtout que s'ils prennent un Français en otage, on fera tout pour aller chercher cet otage et surtout, on fera tout ensuite pour tuer ces preneurs d'otages. Le rôle de la DGSE, c'est de ne pas passer son temps à payer des rançons de plus en plus fortes, forcément. Le rôle de la DGSE, c'est de protéger le Français et d'aller tuer les islamistes qui menacent les Français. La faiblesse n'a jamais payé dans ce genre de guerre.
Alain Rodier, votre point de vue, même question à la fois sur la libération et puis sur les propos de René Girard à l'instant.
Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et bien normalement, tout le monde se réjouit de la libération de l'otage pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Mais quand on dit que tout le monde se réjouit, et c'est là où je rejoins M. Girard, c'est que les populations locales, elles, se demandent si la vie d'un occidental vaut plus que la vie de dizaines, voire de centaines de Maliens ou de Nigériens. Voilà. Donc
la réponse est dans la question, hein.
La joie n'est pas forcément partagée sur place. Ça, il faut en avoir conscience. Depuis Paris, il est vrai qu'on fait un petit peu dans l'idyllisme et on oublie un petit peu les populations locales. Mais c'est un choix politique, c'est un choix qui a été décidé. Et ça fait effectivement depuis de longues années que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, pratiquent de la même façon. Et on l'oppose à la méthode anglo-saxonne, américaine en particulier, qui consiste à ne pas payer, quoique il y a eu tout de même quelques exceptions, puisqu'ils ont échangé récemment un sergent américain contre des responsables islamique qui était enfermé à Guantanamo.
Oui, mais ça, c'est vraiment l'exception à la règle. Donc, vous êtes plutôt sur la position américaine dont on voit effectivement qu'elle est extrêmement claire et dont on voit aussi les effets. C'est-à-dire que les otages américains sont là depuis des semaines, des mois maintenant en Syrie, décapités les uns derrière les autres. Idem pour les Anglais, Renaud Girard.
Oui, mais les Anglais, effectivement, ça a commencé, les Anglais refusent de payer. Et d'ailleurs, un journaliste anglais me disait en Irak, il y a quelques années, « Ah, Moi, j'ai été pris, puis ils m'ont libéré parce qu'ils me trouvaient sympa. Ils ne voulaient pas me tuer. Ils savaient que je n'avais aucune valeur. Mais toi, il y a marqué 5 millions de dollars sur ta tête. Et d'ailleurs, on a vu il y a quelques années des terroristes aller chercher sur une île au large du Kenya, à Lamu, une Française, alors qu'il y a plutôt des touristes anglais qui sont dans cette région-là, parce qu'on sait que la France est faible et qu'elle va payer. Il faut que ça s'arrête. Il faut de la fermeté de notre gouvernement français. Il faut que les gouvernants voient à long terme l'intérêt du pays à long terme. Certes, une libération d'otages, ça permet toujours à un président de la République. C'est d'ailleurs assez curieux que ce soit annoncé par le président de la République. Ça pourrait être annoncé par l'ambassadeur ou au maximum par un ministre. Pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui s'intéresse au cas d'une seule personne? Il ne s'agit pas du destin de tout un territoire. Eh bien, parce que ça donne au président de la République un petit confort médiatique, un petit remontée dans les sondages. C'est le père bienveillant de la population. Non, le président de la République doit voir l'intérêt à long terme du pays. L'intérêt à long terme du pays, c'est d'être solidaire.
Mais c'est de quoi, René Girard ? C'est de dire mourir africains. Ça veut dire mourir dans votre coin si vous êtes pris en otage. C'est ça la responsabilité.
Ça veut dire
le bon discours politique que vous attendez d'un chef de l'État.
Oui, ça veut dire que d'abord vous êtes responsable. Si vous voulez aller faire de la voile, de la croisière dans le golfe d'Aden qui sont infestés de pirates, c'est votre liberté parce qu'il ne faut pas l'interdire. Mais vous savez très bien qu'il y a des pirates. Si vous êtes pris, tant pis pour vous. On essaiera, la DGCRA essaiera de tuer les pirates, essaiera de vous récupérer. Mais on ne va pas alimenter la piraterie en versant des dizaines de millions d'euros comme on a versé jusqu'à présent. J'ai moi-même témoigné devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Oui, parce que vous ne vous baladez pas que dans des endroits...
Voilà, moi je suis moi-même reporter de guerre, je suis allé dans tous ces pays, au Sahel, en Afghanistan, un peu partout. Si on me prend, je ne veux pas que le Premier ministre aille se prosterner dans une mosquée. Je ne veux pas qu'on paye des rançons. Et si, sous la torture, effectivement, je fais un appel au président de la République pour qu'on libère, je vous prie de ne pas prendre au sérieux, de ne tenir aucun compte de mon appel en vidéo si je suis pris en otage. Il faut arrêter ça, c'est délétère et c'est immoral. On a versé... Il y a des reporters qui faisaient leur métier d'une chaîne de télévision française qui se sont fait prendre en Afghanistan, après d'ailleurs ne pas avoir écouté les conseils de l'armée française, de ne pas se rendre dans une région. Mais ils ont fait leur métier de reporter parce qu'ils voulaient vraiment savoir ce qui se passait. Ils avaient raison d'un point de vue de
journalistiquement.
Ils se sont fait prendre. Bien. On a payer des rançons à Peshawar pour leur libération. Mais qu'ont fait les preneurs d'otages avec cet argent? Immédiatement, ils ont acheté des armes pour aller tuer des soldats français. C'est immoral. C'est immoral. Et la solidarité minimum dans ce combat contre le djihadisme que nous avons avec nos alliés africains, on a parlé du Niger, du Mali et tous les pays sahéliens, c'est de ne pas exiger qu'on libère des tueurs, qu'on libère des djihadistes pour que des Européens puissent rentrer dans leur foyer, quand on sait que ces djihadistes, ces dizaines de djihadistes qu'on va libérer, vont ensuite soumettre des populations entières à la terreur. On est en droit d'être solidaire dans cette lutte. C'est une lutte à mort, Nicolas Demont, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une lutte à mort qui est commencée contre les islamistes. C'est une lutte à mort. Et dans cette lutte, il ne faut signaler aucune faiblesse. Je rappelle... que Churchill n'a fait preuve d'aucune faiblesse à l'égard des Allemands des nazis pendant la guerre. Même chose pour De Gaulle et même chose même pour Staline. Vous vous souvenez que le fils de Staline avait été prisonnier par les nazis et il avait dit les nazis voulaient l'échanger contre le général Vaus qui était tombé à Stalingrad. Il avait répondu, on n'échange pas un lieutenant contre un général, et le pauvre fils du propre dirigeant soviétique était mort dans un camp de prisonniers.
Mais le problème, c'est quand il y a des civils, Renaud Girard, et c'est bien de là ce dont on parle, que des armées, comme c'est le cas de l'armée française, fassent la guerre sur le terrain au Sahel, c'est une chose, c'est une guerre, vous l'avez décrite dans des termes guerriers, très forts, très durs. Bon, ensuite, la prise d'otages, c'est un autre problème, vous le voyez bien, même si votre position de principe est très forte, vous voyez bien tout de même qu'elle est compliquée.
Oui, alors je pense qu'elle est hegelienne, je dirais. La liberté humaine ne doit pas être limitée. C'est une liberté que d'aller travailler, comme l'avait décidé Serge Lazarevitch, dans des régions assez troublées, il le savait, il les connaissait d'ailleurs, du Sahel. C'est la liberté des reporters de guerre, comme mes camarades et moi-même, quand nous allons, personne ne nous oblige à aller en Irak, à aller en Afghanistan, à aller au Mali. Personne ne nous oblige. Nous le faisons parce que nous aimons ce métier, parce que ça nous intéresse. Eh bien, nous le faisons à nos risques. C'est notre liberté et nous ne devons pas faire changer la politique de tout un pays parce que nous avons eu envie de nous balader dans des banlieues dangereuses de Bagdad. C'est immoral, c'est irresponsable, c'est un État ensuite qui privilégie certains citoyens sur d'autres. Les journalistes seraient des super citoyens par rapport aux autres. Pourquoi ?
Bon, là, ce n'est pas le cas, il n'est pas journaliste.
Il n'est pas journaliste, il n'y a aucune raison. Mais les journalistes ont été très privilégiés, il y a eu des campagnes qui signalent notre faiblesse. Tous les jours, sur les médias à RFI, on entendait la France a des otages. Vous donnez une publicité, ça donne une publicité extraordinaire à ces petits groupes qui, au départ, sont des groupes en sandales avec des carabines et à qui on donne une publicité extraordinaire et qui leur permet d'ailleurs de recruter d'autres djihadistes parce qu'on leur a fait de la publicité. Non, il faut être extrêmement sévère. Il faut traiter ça d'une manière très dure, uniquement avec les services secrets et bien sûr que ça reste des affaires secrètes.
Alors, monsieur l'ancien membre des services secrets français, Alain Rodier, vous partagez toujours l'analyse de Renaud Girard ?
Bon, c'est une analyse politique que je comprends tout à fait. Moi, en me plaçant au niveau de ex-exécutant, ils appliquent les ordres qui sont donnés. D'ailleurs, quand on parle de la valeur des services, très souvent, c'est dû à la décision politique de les employer d'une façon plus ou moins énergique. Je prendrai le cas du Mossad, hein, qui est en tête du hit-parade, mais parce que le pouvoir israélien a décidé de les employer d'une façon extrêmement efficace.
Et qu'en est-il en France aujourd'hui ? Renaud Girard semble dire que les services secrets s'épuisent plus à payer des rançons et à trouver des intermédiaires qu'à faire leur vrai travail, qui est beaucoup plus viril à l'entendre.
Il semble que le choix politique, il est clairement celui-là, puisqu'il est opposé systématiquement donc, à ce que font nos amis anglo-saxons. Donc le choix a été fait de négocier et ensuite de sauver les otages. Je tiens à souligner d'ailleurs que pour M. Lazarevitch, il était temps de le sortir parce qu'à l'heure actuelle, on ne le souligne pas assez, au nord du Mali, ça devient un désordre absolument incroyable. Incroyable parce qu'il y a une guerre interne à Al-Qaïda au Maghreb islamique avec une partie de ses katibats qui est dévoyé et qui rejoint Daesh. Et la politique de Daesh vis-à-vis des otages est totalement différente de celle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui reste un mouvement absolument abominable, bien sûr, mais qui, lui, négocie, alors que Daesh, on sait très bien ce qu'il fait avec ses otages.
Il les exécute et point à la ligne.
Il les exécute, point à la ligne, et en plus, en médiatisant l'affaire. Mais Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé par Drogdel, qui est toujours affilié à Al-Qaïda central, que j'ai tendance à appeler Al-Qaïda au canal historique maintenant, donc est confronté à des dissidences et de Daesh, parce qu'il en avait connu une avant, c'est celle de Mokhtar Belmokhtar, qui était parti avec ses troupes de son côté. Et donc, et si on rajoute en plus donc des groupes Touareg qui maintenant sont plus en plus volontaires pour obtenir l'indépendance du nord du Mali,
ouais.
Donc il y a un bourbier qui est en train de s'installer à l'heure actuelle où on ne sait plus qui fait quoi et où on va. Même le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, à mon avis, se fait beaucoup de soucis parce qu'il peut avoir une alliance entre les mouvements qui ont fait allégeance à Daesh, puisqu'il y en a déjà en Libye, il y en a en Tunisie, il y a eu une katibat, celle qui a tué notre malheureux dernier otage. Donc, à l'heure actuelle, vraiment, ça devient totalement ingérable.
Et est-ce que l'opération Barkhane, Renaud Girard, vous semble faire du travail de bonne qualité ? Barkhane, pardon, faire du travail de bonne qualité. C'était la une du Figaro ce matin, suivie des deux premières pages. Dans ce paysage qu'Alain Rodier vient de décrire.
Oui, c'est trop tôt pour la juger. Il me semble que ces ratissages, il me semble que les choses se font de manière convenable. C'est plutôt, mais il faudra maintenant ensuite aussi demander leur avis au gouvernement des pays alliés, du Niger, du Mali, de tous les
le
pays
G5,
de la région.
Le G5, comme on dit. Ouais.
Voilà, tous les pays de la région. En ce qui concerne notre politique de payer des rançons, il faut la changer. Mais François Hollande avait pris plus ou moins la décision de la changer. Il avait dit que la France ne paiera plus de rançons.
Et ne procédera pas, et ne procédera pas non plus à l'échange de prisonniers.
Qu'il aille un peu plus loin, qu'il le fasse vraiment, qu'il se tienne à cette position. Je pense que c'est une position honorable. Je pense que Giscard d'Estaing a commis une grave erreur en payant la rançon pour Issenabré. Jamais le général de Gaulle n'aurait payé de rançon. Et je pense qu'il est temps que notre gouvernement fasse preuve et signale au monde entier, c'est important, signale au monde entier qu'il est devenu ferme et qu'il ne mettra jamais le plus petit bout de petit doigt dans un chantage.
Merci Renaud Girard, grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Votre position est claire, nette et ferme. Vous l'aviez déjà exposée à ce même micro à Bayeux lors du Festival des reporters de guerre. Vous l'avez réitéré ce soir. Merci à Alain Rodier du Centre de recherche sur le renseignement et à David Bachet, RFI au Mali. Il est 18h38, vous écoutez France Inter. Un jour dans le monde, on passe par Baltimore. Liane Lavas.
Sister Sandy and my little brother Ray buy a big old wagon, gonna haul us all away. Living in the country where the mountains high, never coming back here until the day I die. Just to live.
Liane Lavas, Baltimore, 18h41 sur Inter, un jour dans le monde vers la Norvège.
Thanks so much for that report.
C'est partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Ce soir donc la Norvège où des milliers de familles subissent encore les conséquences de la guerre froide.
La Shoah, le nazisme, le stalinisme, la guerre froide, des millions de morts et des vies encore dévastées en Norvège. L'histoire d'aujourd'hui part des années 30, 1937, Lebensborn, l'infâme projet des nazis qui voulaient fonder une société aryenne pseudo-parfaite, des soldats allemands avec de jolies blondes norvégiennes. De ces opérations de reproduction naîtront 11 000 bébés rapatriés rapatriés en Allemagne dans des familles d'accueil. Les armistices sont signés au lendemain de la guerre et ces enfants grandissent, deviennent adolescents. À l'âge de 20 ans, une grande majorité d'entre eux formulent le vœu de retourner en Norvège à la recherche de leur mère, le père ayant souvent disparu dans la nature ou ayant été tué au front. Nous sommes désormais à la fin des années 50, au cœur de la guerre froide. La Stasi voit donc une opportunité d'infiltration d'un pays occidental. Les vrais enfants sont bloqués en RDA avec interdiction de sortir et à leur place, on envoie un agent de la Stasi, à peu près ressemblant. Ces hommes et ces femmes qui se présentent devant les mamans norvégiennes en prétendant être leurs enfants s'insèrent dans les familles et la société norvégienne. En 89, le mur tombe, les programmes de la Stasi également. Mais les agents sont toujours en place dans les familles. Ils ont trouvé un emploi, ont fondé un foyer à leur tour. Leur fausse mère est devenue la fausse grand-mère de leurs enfants, etc., etc. Les vrais enfants de Lebensborn, ceux qui n'ont pas renoncé, ont alors 50 ans. La chute du mur de Berlin facilite évidemment les déplacements. Les recherches des uns et des autres s'avèrent rapidement fructueuses. Les identités tronquées vont être découvertes au début des années 2000 et faire l'objet de poursuites judiciaires. Ces procès qui, aujourd'hui, laminent la société norvégienne ont inspiré Georg Mast, un cinéaste allemand qui en a fait un film d'une vie à l'autre. Un film qui a valeur de documentaire sur un sujet très méconnu en France.
En Allemagne aussi. C'est surtout le fait que la Stasi a travaillé avec un héritage des nazis, utilisant les identités d'enfants Lebensborn. Personne n'en a jamais parlé, personne n'a su ça. En fait, c'est deux journalistes allemands des Spiegel qui ont découvert ça à la fin des années 90. Le projet Lebensborn, ça veut dire source de vie. Et l'idée, c'était de rafraîchir le sang allemand. Et les nazis ont cru que les Norvégiens sont des aériens comme les Allemands.
Les Vikings.
Ouais, c'est ça. Et donc, la plupart...
C'est ce que disait Himmler, d'ailleurs.
C'est ça, ouais. C'est lui qui a inventé le truc. Mais les femmes qui étaient rejetées de la société ont eu tendance de faire des abortions, on dit comme ça ?
Des avortements.
Des avortements. Et les nazis ne voulaient pas que les femmes fassent des avortements. C'est pour ça qu'ils ont installé des hôpitaux Lebensborn en Norvège en disant à ces femmes, vous pouvez accoucher ici, mais vous pouvez même aller dans un hôpital qui est loin de votre village pour 9 mois. Personne ne va se rendre compte que vous avez eu un enfant. Et après, vous pouvez ou garder l'enfant ou le donner à nous. En fait, ils voulaient avoir l'enfant. Les Allemands ont plus ou moins kidnappé et les transféré en Allemagne.
Alors, votre film, c'est l'histoire d'un de ces enfants, mais bien plus tard, puisque, évidemment, elle a elle-même déjà sa vie de famille. Elle est en couple, elle a un enfant, elle est même déjà grand-mère. Et s'ajoute une histoire d'espionnage.
C'est ça. En fait, la Stasi a dû développer cette idée au milieu des années 60, quand les enfants Lebensborn, qui sont nés 44, plus ou moins, donc 65, ils avaient 21 ans, et quelques-uns, je crois la moitié des enfants Lebensborn qui ont été transférés en Allemagne, étaient sur le territoire de la RDA. Donc, quand ils ont eu 25 ans, ils ont dit « Je suis un Norvégien, j'ai une mère de Norvège, donc je devrais avoir le droit de quitter l'Allemagne de l'Est ». Et c'est comme ça que la Stasi a eu l'idée, ah non, vous allez rester là, et à la place de vous, on va envoyer un espion à votre mère qui va se présenter comme le vrai fils ou la vraie fille. Et c'est là que notre film est basé là-dessus.
Il y a plusieurs grilles de lecture ensuite. Il y a par exemple ce dialogue, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ? Ce qui est vrai, c'est ce qu'on a vécu, sauf que c'est extrêmement déroutant, parce qu'on ne sait pas le vrai du faux, ce qu'il en est exactement. Tout se mélange.
C'est ça. C'était l'idée. Donc, on l'aime et puis on voit, elle fait des mensonges à toute la famille. Elle a commis un crime et tout ça. Donc, on est proche d'elle et puis on recule un peu et tout ça. Donc, cette question à la fin, ça reste une question dans la tête. Qu'est-ce qui est vrai ? Ce qu'on a vécu ou le crime qu'elle a commis avant ?
Dans le propos qu'on vient d'entendre, Eric, il y a cette phrase qu'il faut sans doute développer. Les bourreaux sont devenus des victimes.
Oui, parce que ces agents de la Stasi, on l'entend bien là dans la voix de Georg Mast, une fois que le mur est tombé, que la Stasi n'existe plus, qu'il n'y a plus de couverture, ils ont été pour ainsi dire largués dans leur vie norvégienne. Cette vie qui devait être une couverture et qui est devenue leur vraie vie. Leur emploi, leur famille, pris au piège de ce jeu dangereux, de vrais sentiments familiaux à l'égard d'un mari, d'une femme, d'une mère qui n'est pas la sienne mais qui est devenue au fil des années, lâchée par une époque qui n'existe plus, les voilà seuls face aux fantômes de l'histoire et à leur famille qu'ils ont appris à aimer et qui ne leur pardonnent rien en retour, trahis évidemment au plus profond de leur chair. Et que dire des vrais enfants qui voient sous leurs yeux une famille qui s'est construite sans eux, à leur place, des vies brisées de part et d'autre, d'une vie à l'autre de Georg Mast vient de sortir en DVD.
Merci Eric Valmire. Dans quelques minutes, direction Oslo pour y retrouver en direct Dominique André. Les prix Nobel de la paix étaient aujourd'hui en conférence de presse. Et c'est maintenant la fabrique du Nouveau Monde.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
La fabrique du Nouveau Monde, bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
Envoyé spécial à Oslo où les deux lauréats du prix Nobel de la paix organisaient aujourd'hui une conférence de presse. Vous étiez Dominique au premier rang.
Oui, dans ces beaux salons du vénérable Institut Nobel au bord du fjord d'Oslo, c'est là que se sont désignés les prix Nobel de la paix chaque année. Nicolas, il y avait donc côte à côte cet après-midi Malala, la jeune pakistanaise victime des talibans qui lutte contre l'obscurantisme religieux, et puis l'indien Kailash Satyarthi, disciple de Gandhi, grand protecteur des enfants. Tous les deux faisaient face à une presse venue du monde entier. Ils étaient émus. L'indien certainement un peu plus, car c'est un monsieur discret et après tout, qui le connaissait avant ce Nobel? Lui, ce grand monsieur qui sauve des enfants victimes d'esclavage ou de travail presque forcé dans les ateliers de l'Inde émergente. Kailash Satyarthi a sauvé plus de 80 000 enfants grâce à des opérations commando directement dans les usines indiennes. Il est arrivé de son pays hier et il n'est toujours pas descendu de son petit nuage de lauréat du Nobel de la paix.
Since yesterday...
Depuis hier, tous mes collègues, tous mes amis me disent « La Norvège est un pays froid. Est-ce que tu as un vêtement assez chaud? Un manteau ?» Et j'ai répondu que je n'ai jamais ressenti dans ma vie autant de chaleur que dans ce pays. Et la chaleur vient de tous ces gens que j'ai rencontrés depuis mon arrivée, des membres du comité Nobel, spécialement de tous les enfants que j'ai vus par la fenêtre, et qui m'attendaient avec leur maître. Et quand je suis descendu en bas de l'hôtel avec Malala, ils étaient si heureux.
Et Malala était évidemment présente, Dominique. Malgré ses 17 ans, c'est déjà une vraie professionnelle des médias et des discours.
Absolument, c'est vraiment, elle est vraiment très très à l'aise en conférence de presse. Elle sait aussi se montrer drôle quand elle répond à Kailash Satyarthi qui a 60 ans et qui s'est adressé d'ailleurs à Malala pendant toute la conférence de presse comme s'il s'adressait à sa fille.
Je suis très honorée d'être assise à côté de mon père. C'est un grand honneur pour moi d'être aux côtés d'un homme qui mène un combat pour les droits des enfants depuis si longtemps. Vous êtes une source d'inspiration pour moi et pour tous les enfants du monde. Ils doivent défendre leurs droits. Quand j'étais jeune dans la vallée du Swat, soudainement les talibans sont arrivés et ça a été le début du terrorisme. Les talibans ont fait de notre vallée un lieu de terrorisme, avec les armes et les attentats à la bombe. On ne pouvait pas aller à l'école normalement. On est tous d'accord pour dire que l'éducation est importante.
C'est la voix de Malala qu'on continue à entendre. Elle a engagé toute une action, Dominique, depuis qu'elle est réfugiée en Grande-Bretagne.
Oui, elle met vraiment sa notoriété depuis 2 ans au service de sa fondation qui recueille des fonds pour scolariser les enfants partout dans les zones où les talibans empêchent encore les petites filles d'aller à l'école. Malala fait vraiment la différence, si vous voulez, entre l'enseignement traditionnel des écoles coraniques et ces écoles libres où sont enseignées les matières essentielles qu'on apprend partout dans le monde.
Je pense qu'il faut savoir quel système d'éducation on veut, ce qu'on veut enseigner aux enfants. C'est vraiment important que nous nous concentrions sur ce sujet. On est tous d'accord pour dire que l'éducation est importante. Mais quelle éducation doivent avoir les enfants ? Chacun peut jouer un rôle, pas seulement à partir des livres. Les médias aussi ont leur responsabilité. Qu'est-ce qu'on doit montrer aux enfants dans les journaux, les magazines, à la télévision ? Si nous montrons que la femme est seulement un jouet ou une victime de la mode, qu'elle doit être mince, les filles vont se demander « Pourquoi je ne suis pas comme ces femmes parfaites ?»
Ce prix, alors Kailash Sertiarti l'a adressé à tous les enfants, ceux qui n'ont pas d'éducation dans le monde, et surtout ceux qui n'ont pas d'enfance.
Ce prix est très important. Mais c'est important pour des millions et des millions d'enfants qui sont privés de liberté, d'éducation et de soins. Il y a tant d'enfants qui sont traités comme des animaux, qui vivent dans des zones de guerre, de violence, de terreur, des enfants otages, des enfants soldats, des enfants forcés de travailler dans la prostitution. C'est un grand honneur pour eux tous. Ce n'est pas pour moi seul.
Et puis dans la salle, Dominique, des amis, des copines de Malala.
Oui, il y avait surtout sa grande amie Shazia qui a été blessée par les talibans dans ce bus où Malala a failli être assassinée. Comme Malala, elle étudie aujourd'hui en Grande-Bretagne où elle est réfugiée elle aussi et elle espère rentrer dans son pays, le Pakistan.
En Angleterre, nous avons beaucoup de liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est une très bonne expérience, une chance. Lorsque nous retournerons au Pakistan, nous pourrons à notre tour enseigner ce que nous avons appris. Les jeunes seront éduqués.
Dominique André, merci. Vous étiez en direct d'Oslo avec à la technique à vos côtés, Philippe Etienne.
Alors, on va commencer la négociation.
Alors ça, on va y venir, mais...
On va reprendre la négociation.
Mais ce n'est pas encore fini.
18h54, l'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
6000 pages rendues publiques sur les méthodes de l'antiterrorisme américain depuis les attentats du 11 septembre. C'est aujourd'hui et c'est ravageur.
Accablant, dit la presse. Ce rapport a été établi après une enquête de 3 ans de la commission du renseignement du Sénat. La commission qui surveille les activités d'espionnage menées par les États-Unis et particulièrement par la CIA. On connaît l'histoire dans ces grandes lignes. La CIA a eu massivement recours à la torture au lendemain des attentats du 11 septembre. Le gouvernement du républicain George Bush Jr. a expressément autorisé des pratiques d'interrogatoire qui, en quelques langues qu'on utilise, s'appellent la torture. Psychologique ou physique, humiliation, tabassage et surtout cette technique dite du waterboarding en anglais ou simulacre de noyade, un dérivé de la tristement célèbre baignoire. Sans parler des suspects arrêtés ici et là puis transférés à dessein dans tel ou tel pays réputé pour torturer systématiquement. Les élus de la commission ont prévenu. Certaines pages sont terribles, certains détails difficiles à lire. Mais la commission a décidé de rendre public son rapport. Imaginez le Parlement français réalisant une telle enquête 10 ans après la guerre d'Algérie et la rendant publique. Les Républicains sont immédiatement montés au créneau. L'ancien vice-président Dick Cheney, l'âme noire de l'administration Bush Jr., a pris la défense de la CIA. Tout cela fut absolument et totalement justifié, a-t-il dit. Le rapport dit exactement le contraire. La torture n'aurait livré aucun renseignement d'importance, en tout cas aucun renseignement sur une menace imminente. Les démocrates, eux, ont hésité. Publier un tel rapport fait courir des risques aux Américains à l'étranger. Il y aura peut-être des gestes de vengeance, de représailles au Pakistan, en Afghanistan ou au Proche-Orient, comme lorsque les médias ont diffusé les images de soldats américains désacralisant un Coran. Mais le président Obama est resté sur sa décision. Il connaît les risques, il ne les nie pas, mais il ne s'opposera pas à cette publication. Pourquoi ? Parce que Barack Obama pense que c'est un imprimatur officiel donné à la torture du temps de son prédécesseur a eu des répercussions terribles. Elle a banalisé cette pratique, elle l'a normalisée. Ce faisant, elle a contribué à la dégradation de l'image de l'Amérique dans le monde et réduit à peu de choses son discours sur les droits de l'homme. Elle a en partie torpillé l'exemplarité démocratique américaine. C'est pour la restaurer que M. Obama, a-t-il dit, a permis la publication de l'enquête de la commission du renseignement. Courageux et, me semble-t-il, assez exemplaire.
Merci Alain Frachon. Et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne à 19h20. Sur quoi ce soir ?
On parle ce soir des juges du travail, autrement dit des prud'hommes, Nicolas. Ces juges non professionnels auxquels vous faites appel en cas de litige avec votre employeur, ou souvent d'ailleurs votre ex-employeur, et plus rarement avec un de vos ex-employés. Ça fait partie, cette réforme du projet de loi Macron qui va être présenté demain en Conseil des ministres. Alors on en parle parce qu'il la juge trop lente, cette justice du travail. Donc il veut essayer de l'améliorer, mais les syndicats et le patronat sont contre aujourd'hui. Et vous, que pensez-vous de cette justice du travail ? J'attends dès maintenant vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux, franceinter.fr, Facebook et sur Twitter, hashtag Telson. J'ai fini Nicolas.
C'est parfait, vous êtes parfaite. Merci Hélène.